Vous écoutez France Inter, il est 19h. Le journal Xavier Demeny, bonsoir.
Bonsoir. Pas de pause pour les Antilles. Nouvelle journée de manifestation contre le pass sanitaire. Sixième samedi d'affilée et des rassemblements dans toute la France, dont Toulon, où la mobilisation est en forte baisse par rapport à la semaine dernière. L'accès au massif forestier du Var interdit tout ce week-end. Les flammes n'avancent plus, mais les pompiers surveillent le feu et craignent une reprise. Le vent va souffler fort dans les prochaines heures. À la une aussi ce soir, les évacuations en Afghanistan, toujours chaotiques à l'aéroport de Kaboul, et l'Europe qui précise sa position vis-à-vis des talibans. Le statut des chauffeurs Uber, encore en question en Californie, aux États-Unis. Et la Ligue 1 de foot, les Lillois, champions de France en titre, signent un mauvais début de saison. Ils sont à Saint-Étienne ce soir. Le temps de demain, c'est encore très nuageux. Vigilance dans 4 départements de l'Est pour les orages.
France Inter.
Ils étaient plus de 9000 à Montpellier, 6000 à Toulon, 4000 à Strasbourg. Selon les chiffres des autorités, nouvelle journée de mobilisation contre le pass sanitaire. À Toulon, c'est beaucoup moins que la semaine dernière, point de convergence qui avait réuni 22 000 personnes. Retour donc à une manifestation classique ce samedi, Jean-François Fernandez.
Un cortège bleu, blanc, rouge avec de nombreux drapeaux tricolores dans les rues de Toulon, avec en tête le cortège des motards pour une escorte. Des manifestants qui, à l'image de cette retraite, défendent avant tout leur liberté.
Ma liberté de santé, mon autonomie de santé, il est hors de question de nous obliger à avoir une injection sur des produits qu'on ne connaît pas. On dit aux femmes enceintes, ne prenez pas de tisane d'ortie parce que ça peut être dangereux, il n'y a pas d'études, et on va nous injecter des produits dont on ne sait rien. Donc non, voilà.
D'autres sont inquiets pour leurs enfants avec, affirme-t-il, un manque de recul suffisant. Et puis dans le cortège, Marilyn, qui porte un drapeau de couleur jaune avec l'inscription rond-point du QRS, gilet jaune et anti-vax, il y a finalement convergence de revendications.
Il y a beaucoup de gens maintenant qui voient notre panneau aussi, enfin, notre drapeau, et qui disent ah, ben, on aurait dû venir avant, vous rejoindre avant, parce que je pense qu'on s'est battu que pour les libertés, hein. Liberté et l'égalité, donc je pense qu'on y est encore là. Et que c'est très grave et que je pense que les gens s'en rendent compte maintenant parce que ça devient de plus en plus lourd.
Arrivé place de la liberté, le mot liberté est scandé et les manifestants entonnent la Marseillaise.
Jean-François Fernandez dans la manifestation anti-pass sanitaire à Toulon. Pas encore de chiffres précis au niveau national, ni pour les 4 cortèges de la capitale. À Paris d'ailleurs, comme ces dernières semaines, l'un des cortèges était organisé par l'ex-FN Florian Philippot, farouche opposant au pass sanitaire. Ce qui suscite l'indignation de Jérôme Marty, médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre. Il dénonce le discours des leaders du mouvement anti-vax et anti-pass.
On voit qu'un certain nombre de personnes qui sont des meneurs de mouvements anti-vax ont, eux, pour le coup, d'immenses conflits d'intérêts, qu'ils soient conflits d'intérêts économiques ou politiques, et n'ont absolument aucun intérêt à ce que cette crise cesse. Alors cela, eh bien, je crois qu'il faut qu'on ait le courage de les nommer, hein, tout ce qui est Philippot, Martine Von Herck, Henri Oncode, Lalanne, Bigard, enfin, vous savez, il y a en gros une galaxie de 10-15 personnes qui fomentent comme ça des troubles, qui envoient des fake news, qui sont convaincus de fake news et qu'il faudra un jour entendre et certainement pénaliser ou faire payer du temps qu'ils nous ont fait perdre et probablement de catastrophes individuelles qu'ils ont provoquées par les retards.
Le médecin Jérôme Marty, interrogé par Solène Cressan chez nos confrères de France Info. Plus de 800 personnes ont été hospitalisées ces 24 dernières heures, dont 165 nouvelles admissions en soins critiques qui se concentrent dans les Antilles et dans les Bouches-du-Rhône. La situation sanitaire qui oblige la Polynésie française à durcir son confinement déjà en place, avec un taux d'incidence qui s'enflamme dans les zones les plus peuplées. 2800 cas pour 100 000 habitants, taux le plus élevé de France. Fermeture des écoles, collèges et lycées, ainsi que des commerces non essentiels à partir d'après-demain lundi, et déplacements restreints, le tout pendant au moins 2 semaines. Vigilance extrême sur la Côte d'Azur. Le vent va souffler fort dans le Var et les pompiers qui craignent la reprise du feu dans le massif des Maures, arrière-pays de Saint-Tropez. Le feu est fixé, c'est-à-dire que les flammes n'avancent plus, mais le risque est grand. 800 pompiers toujours à pied d'œuvre dans cette zone qui compte plus de 130 espèces protégées. Plusieurs villes ont d'ailleurs lancé un appel aux dons pour permettre de replanter des arbres dans cette réserve naturelle. Il faudra sans aucun doute entre 30 et 40 ans pour que la forêt se reconstitue, explique François Fouché, délégué du Conservatoire du Littoral en PACA. Mais il faut qu'elle le fasse d'elle-même, dit-il.
qu'on a souvent des fausses bonnes idées. On imagine qu'un espace naturel, c'est un espace jardiné par l'homme. Or, la réalité, c'est que la forêt méditerranéenne se régénère par elle-même et qu'il nous convient juste de la laisser pouvoir s'exprimer sans trop intervenir. Et ça vient heurter peut-être un certain nombre peut-être de bonnes intentions des uns et des autres. Mais la forêt méditerranéenne, il faut lui faire confiance et elle va pouvoir se régénérer par elle-même. Certains utilisent le terme de catastrophe écologique. C'est pas un terme que je m'approprie. Je considère qu'il faut considérer les choses à une échelle de temps un peu différente. Et il faut savoir que la nature a une capacité de résilience, encore une fois, si on ne vient pas trop la perturber dans sa régénération naturelle.
François Fouchet, délégué du Conservatoire du Littoral en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce week-end, tous les massifs du département du Var sont interdits d'accès pour limiter les risques.
France Inter, Xavier Demagny.
19h06, un nouvel avion doit atterrir dans la soirée à Paris en provenance des Émirats Arabes Unis, base arrière du pont aérien français pour les rapatriements d'Afghanistan. Évacuations qui se poursuivent de façon chaotique. La situation à l'aéroport de Kaboul est extrêmement tendue. Des milliers de familles afghanes tentent de fuir le pays, coincées entre les Américains qui contrôlent les lieux et les talibans. L'ONG Reporters sans frontières réclame d'ailleurs aux États-Unis un plan spécial pour l'évacuation des journalistes et des défenseurs des droits humains. Et Christophe Deloire est le secrétaire général de RSF.
Aujourd'hui, on est dans cette situation où il y a la volonté d'un certain nombre d'États, et notamment européens, d'accueillir des opposants politiques, des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme, et une très grande difficulté à les évacuer à cause de ce qui se passe sur le terrain. Pas à cause du manque de visas, pas à cause du manque d'avions, mais à cause de l'impossibilité souvent d'accéder aux avions. Les autorités américaines, jusqu'à présent, ont une priorité, qui est l'évacuation des ressortissants américains et de ceux qui ont travaillé avec eux. Et ça vaut pour les médias. Cette priorité doit pas être la seule. Il y va de leur image au regard de la défense de la liberté de la presse. Ils ne peuvent pas laisser ainsi des journalistes afghans qui ont besoin d'évacuation sans pouvoir être évacués, faute d'accès à l'aéroport. Évidemment que sur place, ça n'est pas facile parce qu'il y a un chaos devant l'aéroport. Mais il y a des mesures qui peuvent être prises depuis des points à l'intérieur de Kaboul, avec des corridors au moins le temps du passage du convoi. Il y a très clairement un problème de filtrage, d'identification des personnes, d'accès aux avions.
Christophe Deloire de Reporters sans frontières avec Louise Baudet. Pendant ce temps, la présidente de la Commission européenne exhorte tous les pays, et les 27 en particulier, à accueillir des réfugiés afghans. Ursula von der Leyen, qui assure les États membres du soutien financier de l'Europe, elle était en visite en Espagne aujourd'hui au centre d'accueil européen pour les Afghans avec le président du Conseil, Charles Michel. L'occasion pour eux, Pierre Chaperon, de clarifier la position de l'Union vis-à-vis des talibans.
Quelques jours après les déclarations du haut représentant pour les affaires étrangères, Josep Borrell, sur le fait qu'il faudra dialoguer avec les talibans, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a voulu clarifier la position de l'Union européenne.
Il n'y a pas de discussion politique avec les talibans. Il n'y a pas de reconnaissance des talibans. Bien sûr, nous devons avoir des contacts opérationnels avec eux dans des moments de crise.
Ursula von der Leyen, qui a déclaré vouloir maintenir les ONG en Afghanistan et augmenter le budget des aides humanitaires fixé en 2021 à 57 millions d'euros. L'Union européenne qui attend des actes de la part des talibans, comme l'a rappelé Charles Michel.
On va devoir travailler pour garantir le respect des droits humains, spécialement le droit des femmes, le droit des jeunes filles, que les progrès qui ont été réalisés puissent être confirmés, confortés. Ça ne va pas être simple. Nous ne sommes pas naïfs. Nous voyons bien quelles sont les menaces et quels sont les obstacles.
La situation en Afghanistan sera d'ailleurs le thème central des discussion du prochain G7 programmé la semaine prochaine. Madrid, Pierre Chaperon, RFI pour France Inter.
Et aujourd'hui, le Mollah Baradar, cofondateur et numéro 2 des talibans, est arrivé à Kaboul pour entamer des discussions sur la formation d'un nouveau gouvernement près d'une semaine bientôt après la chute de la capitale afghane. Tractation avec des responsables djihadistes et politiques locaux, et notamment le fils du commandant Massoud, qui aurait prêté allégeance au mouvement islamiste. Et son père était connu dans les années 90 pour son opposition aux talibans. Le Tchad retire la moitié de ses effectifs au Sahel, déployés au sein de la force anti-djihadistes du G5, 600 soldats qui intervenaient jusqu'ici dans la zone des trois frontières, au croisement du Mali, Burkina Faso et Niger. Redéploiement stratégique pour s'adapter au mieux à l'organisation des terroristes, dit le gouvernement tchadien au lendemain d'une nouvelle attaque dans ce secteur qui a tué 10 civils au Niger. En Californie, le statut des chauffeurs qui travaillent via des applications comme Uber, de nouveau remis en question. Le débat avait pourtant été réglé par référendum à l'initiative des compagnies l'an dernier, estimant qu'ils devaient travailler comme des indépendants et non des employés. Mais ce vote a été jugé inconstitutionnel et donc inapplicable, Loïc Loury.
En 2019, pour clore le débat sur le statut des chauffeurs d'application, la Californie adoptait un texte forçant les entreprises du secteur à tous les requalifier comme des employés. Fin de partie, pas tout à fait, puisque l'année suivante, ces mêmes compagnies lançaient un référendum, la proposition 22, en faveur de l'indépendance de leurs conducteurs. Résultat, près de 60% de oui, les chauffeurs seraient donc désormais contractuels en échange de quelques avantages sociaux. Mais hier, c'est donc ce texte qui a été rendu caduque par un juge, inconstitutionnel selon lui parce qu'il limiterait les pouvoirs du Parlement californien. Uber, dans la foulée, a annoncé vouloir faire appel. Mais si l'entreprise ne cache pas sa colère, cette décision devrait réjouir une bonne partie de ses chauffeurs, précaires, ballottés d'un statut à l'autre. En février, la Cour suprême de l'État avait refusé de recevoir leur plainte visant à rejeter le référendum. Leur souhait a finalement été exaucé. New York, Loïc Loury, France Inter.
En France, syndicats et patronats seront reçus à Matignon les 1er et 2 septembre pour discuter de la crise sanitaire et des aides pour y faire face, mais aussi de la réforme de l'assurance chômage et de celle des retraites. Plus le droit à l'erreur en football. La suite de la 3e journée de Ligue 1, le LOSC, pourtant champion de France en titre, doit rattraper son mauvais début de saison. Déplacement à Saint-Étienne ce soir. Bonsoir Rodolphe Montagnier.
Bonsoir Lionel.
Depuis Geoffroy Guichard, le stade de l'ASSE qui accueille donc des Lillois bien mal en point ce soir.
Oui, effectivement, c'est l'un des attraits de l'affiche du soir au stade Geoffroy Guichard. Voir comment le Lille de Jocelyn Gourvennec va réagir après l'affront vécu la semaine dernière face à Nice dans le Nord et cette lourde défaite 4-0. Les Lillois effectuent un début de saison indigne de la meilleure défense de l'exercice passé, tout simplement. Songez que les Dogs ont déjà encaissé 7 buts en seulement 2 rencontres. Alors que la défense était le symbole de la solidité et de la cohésion d'un groupe qui a pourtant assez peu évolué jusqu'ici. Retrouver cette assise défensive est la priorité du moment. L'arrivée cette semaine d'Ivo Grivic, le gardien croate prêté par l'Atlético de Madrid, s'inscrit dans cette intention. La nouvelle recrue pourrait faire ses débuts dans le championnat de France ici ce soir dans le Forêt. Mais les Lillois savent aussi que leur nouveau statut de champion de France, vous l'avez dit, leur impose de montrer un tout autre visage dans le jeu. Et là, c'est le nouvel entraîneur qui se retrouve en première ligne. Les choix de Jocelyn Gourvennec, successeur de Christophe Galtier, sont très attendus par les supporters lillois. Un bon résultat est d'autant plus espéré que l'AS Saint-Etienne est à peine mieux lotie que son adversaire du jour. Les Verts de Club Tuel sont eux aussi en quête d'un premier succès après deux matchs nuls.
Saint-Etienne, Lille, c'est à 21h dans un peu plus d'une heure et demie. Et Lens s'impose ce soir à Monaco 2-0. Départ glissant pour les 24 heures du Mans cet après-midi sur une piste complètement trempée par la pluie. 61 voitures au départ avec le retour du public dans les tribunes pour deux tours d'horloge. Donc c'est Toyota qui mène la danse pour le moment. Eux ont repris la route, mais beaucoup moins vite. Évidemment, retour des Aoussiens. Beaucoup de circulation aujourd'hui, jusqu'à 840 km de bouchons cumulés, car, pardon de le rappeler, mais c'est bientôt la rentrée, plus qu'une grosse semaine de congé. Les vacances d'été touchent à leur fin, derniers instants au camping Le Beaulieu, près de La Rochelle, avec Gérald Paris.
Merci à vous, madame, au retour. Au revoir. Merci.
Jour de départ, l'affluence s'en ressent à l'accueil du camping, même si pour éviter les bouchons, certains ont pris la route la veille, les autres ont pris l'option de se lever un petit peu plus tôt, comme ce groupe d'amis en provenance de Nantes, Milan.
On part tôt parce qu'on veut éviter les bouchons, quoi, mais je crois qu'on va traîner encore un peu parce qu'on n'a pas encore fini. On devait partir à 9h.
Les tentes sont démontées, les vélos dans la petite camionnette, les sacs sont devant les voitures, reste encore à plier la tonnelle.
Mal commencé à fermer.
Théo.
Bah, c'était pour la pluie. Il a pas plu, mais bon, c'était pour la pluie.
Un petit peu plus loin, dans un mobil-home, un couple des Côtes d'Armor peaufine le nettoyage, Jérôme et sa femme Lucie.
Ça va pas très très vite pour le balai là-dedans, hein.
Parce qu'on peut.
Pas simple, hein, quand il y a deux enfants en plus, faut s'organiser. Hein.
Oui, tout à fait, oui. Faut leur trouver des occupations pendant que nous on fait le ménage, quoi.
Ça va le faire.
Après une semaine de vacances à La Rochelle, direction Lannion pour une reprise du travail lundi. Pour le mobil-home, pas d'état des lieux de départ avec les vacanciers. Les équipes passent une demi-heure après. Explication de Christine Rouquin, la gérante du camping.
On a été obligé de s'adapter par rapport au Covid, aérer au maximum le mobil-home, que ce soit une sécurité quand elles vont faire après l'état des lieux.
Ensuite, c'est Léo, un saisonnier qui est chargé du nettoyage final.
Bal.
Je suis là de 9h à 14h. J'ai environ 5 mobilhommes à faire en une journée.
Nettoyage renforcé, notamment sur les poignées de porte et les robinets de la salle de bain. Dans quelques heures, le mobilhome pourra accueillir de nouveaux vacanciers.
Ça, c'est pour ceux qui ont de la chance. Gérald, Paris, France Bleu, La Rochelle. Et puis Strass et Payet ce soir à New York. Grand concert pour célébrer la reprise après la pandémie. Bruce Springsteen, Carlos Santana, Patti Smith ou encore Paul Simon en tête d'affiche.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Alerte météo pour la Haute-Saône, la Haute-Marne, les Vosges et la Côte d'Or. Jean-Michel Golinski.
Attention aux forts orages de la soirée et de la nuit dans l'Est, notamment sur les quatre départements placés en vigilance orange. Demain, ces régions vont conserver un ciel lourd et partiellement orageux. Du nord de la Seine au centre, du Poitou-Charentes au Limousin et de la Bretagne au Val-de-Loire, l'ambiance très variable va s'accompagner d'ondées. On notera tout de même l'après-midi l'installation d'un meilleur ensoleillement par l'océan. Au sud de la Garonne, la matinée sera faiblement pluvieuse, un temps maussade qui va se maintenir l'après-midi près des Pyrénées. Enfin, sur la Corse et le pourtour méditerranéen, les grisailles côtières seront suivies d'un soleil vaillant. Mais l'après-midi, la tramontane et le vent d'ouest sur le Var et la Corse vont souffler à une cinquantaine de kilomètres à l'heure. Le tout dans des températures sans changement autour de la Méditerranée, mais en baisse très nette sur les autres régions.
Merci Jean-Michel Golinski de Météo France.